La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD tri-hebdomadaire qui tente de reprendre sa dictature. C'est dur, c'est dur.
Ouais. La rime pop, dur, dur. Dur, dur. Bof. T'emballez pas là.
Coucou les gens et bienvenue au 1A Club, un podcast qui vous parle de bande dessinée. Et je reviens après avoir été viré lâchement, même si j'étais toujours en coulisses, j'avais été mis au cachot à gérer la technique, pendant trois difficiles semaines, mais vraiment très très difficiles, où l'on m'a tenu au silence.
Nous, on était bien.
J'avoue que j'ai tenté de me venger, mais c'est vraiment très dur de les tenir au silence.
Alors, on a mis en place un vote sur le site pour savoir si vous voulez voir Pierrick revenir.
C'est ça.
Voilà.
Ouais. Et on ne veut pas vous dire ça non plus, mais on a un peu créé des bots pour voter.
Voilà, beaucoup de bots. Bienvenue aux bots qui nous aident. Donc, je suis One IP. Pour m'accompagner, j'ai
Et peut-être que nous aussi, en fait.
Oui, non, c'est correct. J'ai le terroriste ludite Guillaume. Salut Guillaume.
Salut tout le monde.
Pour nous accompagner. J'ai le chef syndicaliste Thierry.
Nous revendiquons.
Voilà. Et le roi de l'opposition.
Je ne suis pas
Mathieu.
D'accord.
Voilà.
Il s'oppose.
Donc je suis très bien entouré.
Je vous demande de vous taire.
Je suis très bien entouré.
Je vous demande
et nous allons
vous
parler de Tati
grésille.
Et le film sans fin, le mais Royal Fondement, la jeunesse d'Arsène Lupin, Cagliostro et la fin du run de Chip Zdarsky avec Daredevil numéro 2 et 3. Et nous finirons avec un petit œil sur un jeu de société qui se nomme Tanuki et qui explique notre retard en partie.
Non, on était à l'heure.
Oh, pas du tout. Notez tout de même que si vous nous écoutez, c'est aussi grâce au soutien de Matzeka, Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob qui nous soutiennent sur Tipeee. Si vous voulez faire de même, vous allez sur tipeee.com/lavoixdesbulles et ça vous permet de nous donner un café, une bière, un magnum de champagne. Vous avez totalement le choix de ce que vous voulez nous offrir pour soutenir nos émissions, nous permettre d'acheter du matériel, nous permettre de nous acheter du café, de la bière.
Un magnum de cidre, ça existe, hein ?
Oui.
Sûrement, mais perso, je préfère les magnums de bière quand même.
Alors, moi, je connais le principe. D'abord, tu vides le magnum de vin. Après, tu re-remplis le magnum de vin avec du cidre. Et ben, ça fait un magnum de cidre.
Jamais, ça t'a oublié l'étape où tu te trompes et où tu mets le champagne d'abord.
Et je crois
du coup, il faut le revider.
Ouh, c'est pas bête, ça.
Alors, rassurez-vous, ils font semblant. Hein. Vous pouvez continuer à nous offrir de l'alcool. Tout se passera bien.
Du whisky, c'est bon. On a une super recette de poulet au whisky.
Et je crois qu'on va pouvoir démarrer. Avec Tati et le film Sans fin, scénarisé par Arnaud Le Gouefleck, dessiné et colorisé par Olivier Suppio, qui est sorti chez Glénat pour 22,50€, mon cher Thio.
Et de quoi que ça nous parle, d'après toi ?
De Tati et un film qui n'arrive pas à finir.
C'est ça.
Alors, bon, voilà. C'était une superbe...
Ah, c'était bien. Donc, de quoi ça nous parle ? Ben, forcément, donc, de Jacques Tati et forcément un petit peu aussi de Monsieur Hulot. Et donc, de tous les films de Tati, de toute donc, sa production. Moi, ce que je note surtout, déjà, c'est une première, en fait, une couverture, en fait, qui, je trouve, géniale. Parce qu'elle est à la fois dans la petite ambiance de ce que peut avoir Tati, avec cette position, on va dire, qu'on retrouve toujours avec les mains dans le dos, penchées en avant, avec cette caméra qui... Et là, le zoom, il est trop bien fait. La cam, elle est trop bien réglée, les gars.
Je sais pas, je vois rien.
Ah ben, c'est exact.
Je te rappelle sur le public non plus.
Non, mais...
Vas-y, continue.
Ouais, vas-y.
T'as pas là, de lumière sur ce truc point,
mais il faut grossir.
Et donc, t'as pas de lumière là-dessus ?
On va donc suivre en fait l'histoire de Jacques Tati, donc de sa naissance et ses débuts dans le music hall, où ensuite on va le voir donc réaliser donc ses premiers films, et on va avoir donc plusieurs pages qui vont être donc à chaque fois séquencées avec donc les différents films et donc la production qu'il va faire pendant sa vie. Le dessin est, je trouve, assez pétillant. On retrouve un petit peu toutes les poses de Monsieur Hulot. Alors, de ce que j'en ai en souvenir, parce que je vous avoue que je ne suis pas un fan.
Alors là, on s'est refait l'intégrale des 7 films. Non, je déconne.
Écoute, j'allais te dire, déjà, je trouve ça admirable. J'allais dire, c'est très pro de ta part.
Du coup, là, je suis un petit peu au bord de ma vie.
Ok. Donc,
quand c'est joyeux.
Alors, je me rappelle que les vacances de Monsieur Hulot que j'ai vu un soir en famille. Je vous raconte ça. C'est un petit peu, je vous raconte ma vie. Du coup, avec mes parents, tout ça, c'était. Et je vous avoue que j'avais un avis assez mitigé sur les vacances de Monsieur Hulot que je n'ai pas très bien compris. Ah, j'ai cru que tu allais me dire un
truc. Non, j'allais juste couper le micro pour qu'on arrête d'entendre le café. Carmu est parti. Vas-y, pour ça.
Ah, ok. Non, je pensais que tu allais me dire un truc parce que du coup, tu allais me dire peut-être pourquoi est-ce que je ne l'ai pas compris.
Oui.
Mais voilà. Et donc, c'était un souvenir d'enfance, mais qui ne m'a pas très, très vraiment marqué. Après, j'ai trouvé ça très intéressant, ce bouquin, parce qu'on est vraiment sur le personnage de Jacques Tati. Et même si je ne connais pas toute son œuvre, dans tous les cas, le côté quand même personnage qui est quand même renommé, marquant pour le cinéma français et pour le cinéma international. Et je trouve que voilà, le dessin, et je trouve vraiment bien trouvé. Alors, ce n'est pas un trait qui est réaliste, clairement, mais on est sur un truc un peu caricatural, mais qui est très bien fait, qui est très drôle, avec des moments où aussi qui laisse, je trouve, un petit peu de la place pour avoir un petit côté un peu onirique, un petit peu rêveur. Et on a des différents personnages, certains, alors Bertulon et Buffalo, les mecs qui en fait questionnent tout le temps
les deux Dupont et Dupont,
voilà, qui sont toujours en train de lui poser des questions sur philosophiques sur sa vie, son œuvre et pourquoi est-ce qu'il fait tel film. Voilà, non, un bouquin intéressant en tout cas pour découvrir Jacques Tati. Et alors, peut-être pour les vrais fans, découvrir des anecdotes sur les films aussi. Maintenant, je ne suis pas un vrai fan, donc peut-être que voilà, vous aurez d'autres avis là-dessus.
Sur la place du script.
Et sur la place, alors le non-script.
De la script. La personne qui était là pour dire bonjour.
Oui, mais c'est le CNC qui était là, pour checker quand même. Parce qu'il faut toujours checker quand même. Quand tu donnes des sous, on vérifie. Ça, c'est français, monsieur.
Absolument, madame.
La vérification, on en parlait tout à l'heure.
On check.
Voilà, donc quel est votre avis à vous donc, sur ce Tati ou la vie sans fin ?
Le film sans fin.
La vie sans fin du film.
Eh ben, j'étais à deux doigts du coup de cœur. À deux doigts.
Ah, ok. Voilà.
Ah non, parce que vrai. Alors, à la base, Tati, c'est pas forcément ma cam. Comment ?
Juste un doigt.
Juste un doigt ? Tu veux pas un whisky d'abord ? Et du coup, vraiment, j'ai trouvé ça très bien fait, très bien raconté. C'est pas fondamentalement un réalisateur vers lequel je penche naturellement. Et pour autant, ça m'a donné envie. Voilà. Donc. C'est bien de parler de Monsieur Hulot. En l'occurrence, ça donne envie d'aller voir pourquoi les gens ont eu cet engouement-là. Et surtout, vraiment les spectateurs, c'est-à-dire que les maisons de production, les salles, les distributeurs, etc., n'étaient pas follement emballés par les productions, l'angle pris, le parti pris choisi par Tati. Et au final, ça plaisait au public. Ça a été à chaque fois son sésame pour arriver à faire distribuer ses films.
T'en avais vu des films avant de lire le bouquin?
Je sais que j'ai vu du Monsieur Hulot, mais il y a fort longtemps, et je sais plus. Mon oncle, c'est pareil, j'ai vu des extraits, mais j'ai pas vu le film en entier. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vu les films en entier.
Du coup, j'ai découvert aussi que, les vacances de Monsieur Hulot, il y a trois versions du film. Parce que même du coup, Tati revient sur ses propres films.
C'est ça, c'est jamais terminé. En fait.
C'est un peu le Ridley Scott, quoi. Il y a le Director's Cut, le Director's Cut final.
J'en dis le George Lucas, tu vois.
Alors, Ridley Scott plutôt pour.
Ridley Scott.
Pour Blade Runner, parce qu'il a quand même des chiés de versions de Blade Runner, quand même.
Ouais, Snyder, ça marche aussi.
On n'en parle pas.
Bon, voilà. Bref, donc voilà. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une franche réussite. Et comme tu le soulignais, le graphisme est en parfaite adéquation avec le propos. Donc voilà, pour moi c'est une vraie réussite de A à Z, il n'y a rien à acheter dans ce bouquin, c'est top.
Guillaume ?
Je rejoins Thierry et Mathieu en fait, je ne connaissais pas du tout l'artiste, enfin à part de nom, quoi. Je me souviens même pas avoir vu un de ses films honnêtement, et pour autant je trouve sa vie incroyable, abracadabrante, rigolote, normale aussi. Elle est parfois très banale et moi ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que tout du long ils ont insisté sur les origines de Tati, qui est partie de son métier de mime, et et ils ont insisté sur le fait que c'était quelqu'un qui passait son temps à observer la vie et pour retranscrire ça dans les films, et moi j'ai trouvé ça vachement bien, pareil, pas très loin du coup de cœur en fait. Et je trouve que c'est super intéressant, que c'est une BD vraiment à lire, qu'on aime ou non le personnage, qu'on soit intéressé ou non par sa filmographie. Je pense que c'est la biographie en elle-même est intéressante.
Moi, j'avais peur que ce soit un bouquin de cinéphile, parce que moi, pour le coup, j'ai étudié Tati à la fac. Donc, c'est un auteur où j'ai vu pas mal de ses films. J'ai fait des analyses, des trucs, ouais, bien casse-couille, tu réfléchis sur l'œuvre, tout ce que tu veux. Et là, j'ai trouvé le bouquin aussi intéressant sur la façon dont il construisait son univers, il construisait son film, avec toute l'histoire de sa vie autour. Hein. Et je trouve que ça marche très bien aussi avec de la bande dessinée, parce que cette idée qu'on a un décor unique où on a les personnages qui se baladent dedans, il y a quelque chose qui, ouais, de filmer la scène. Il se passe toujours quelque chose dans les arrière-plans des films de Tati. Tu sais jamais où jeter de l'œil. C'est le genre de film. C'est un peu les Yatil en version poétique, tu vois. Il y a toujours un petit détail, le personnage qui se balade à gauche, à droite, un souci, mais là, on le voit. Moi, j'ai adoré cette scène où on le voit qui teste les verres, ouais. Les bruits de verres qui cassent. Il s'amuse à casser des verres non-stop jusqu'à avoir le bon bruit de verre qui casse. Et il galère qu'il n'en peut plus. Enfin, ce souci du détail de ce personnage, on a l'impression qu'il est complètement à l'ouest, mais à côté de ça, il est d'une rigueur dans ce qu'il fait qui est impressionnante. Voilà, enfin moi ça m'a donné aussi envie de voir son dernier film parce que ça me parle que sa fille
est terminée,
ouais. Voilà, Forza Bash qu'il y a. Et ce qui m'a aussi fait rire, c'est qu'il y a une très belle approche dès le départ, c'est-à-dire qu'on voit le point de vue au départ de la script. Alors lui, il dit qu'il n'a pas besoin de script. Et qu'au bout de 2 jours de tournage, il se rend compte que, ah, en fait, si peut-être
c'est pratique. Quand même.
C'est quand même pratique d'avoir quelqu'un qui note tous les petits détails à la con.
Mais ça montre aussi le côté artiste du garçon, c'est-à-dire qu'il a son truc dans sa tête et toutes les contingences matérielles, bon, c'est gentil quand c'est utile à la création, mais pour le reste, on s'en fout un peu, quoi. Et c'est ça, c'est vraiment l'artiste fou, il a une forme de Dali, mais austère.
Alors, c'est sorti dans la collection, je crois, c'est 9,5. C'est une collection chez Glénat qui est vraiment vouée au cinéma et aux cinéastes. Oui. Et pour le coup, je trouve que c'est une très bonne approche d'avoir pensé à Tati. Tu m'as perturbé. À Tati en bande dessinée. Et franchement, je suis content que ça vous ait aussi fait accrocher. Parce que pour moi, il y avait un côté très BD pour cinéphiles. Et vous me donnez l'impression que ça va au-delà.
Pour moi, pas du tout. Quoi. Sans connaître Tati, je trouve la BD vraiment. Pas sans connaître son œuvre et tout ça, ou sa façon de faire. Au contraire, je trouve que c'est une bonne façon de découvrir et de rencontrer le personnage. Parce que pour moi, ça ne s'adresse pas du tout à des experts. Et en même temps, les experts peuvent trouver ça intéressant parce que. Ils insistent bien sur certains petits points tout en restant à la portée de
ça
tout le
monde.
Ça
vous a donné envie de voir
le film
clairement. D'un coup là.
Ah, oui, il y a bien peut-être pas toute la filmographie, non, mais je suis quand même assez curieux de voir le fameux monsieur Hulot.
Petit Hulot.
Playtime est vachement bien.
Celui qui me tente le moins, c'est Trafic. Mais tu vois, même ça, c'est-à-dire que dans le travail graphique du bouquin, on travaille à la façon de Tati. On a voulu montrer les éléments, comment Tati les avait pensés dans ses films. Et donc voilà, il y a un vrai travail graphique derrière. C'est pour ça que ce n'est pas simplement encyclopédique sur l'œuvre de Tati. Donc voilà, un chouette bouquin.
Tati et le film sans fin d'Arnaud Le Guéflec et Olivier Supio chez Glénat pour 22,50 €. Allons maintenant au fond des choses avec Le Royal Fondement, scénarisé par Philippe Charlot, dessiné par Eric Hupsch et colorisé par Orlan Chambert, qui est sorti chez Grand Angle pour 16,90 €. Nous t'écoutons, Guillaume. On voit les sujets qui te tentent.
Alors, écoute, non, pour anecdote, pourquoi celui-ci ? Parce que, indépendamment des petits problèmes techniques qu'on a eus, vous l'aviez sous le coude, c'était parfait. Et c'est un bouquin que je voulais lire parce que un de mes amis auteurs avait en projet de faire un bouquin sur le même sujet. Et puis finalement, il s'est fait coiffer au poteau. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et donc, voilà, Le Royal Fondement. Donc, ça part du fait historique réel que notre ami Louis XIV a donc été affublé d'une fistule dans le fondement. Et que...
Je ne comprends pas, ça veut dire quoi ?
Anal.
Voilà. Ah ! Anal.
Et donc, bien sûr, c'est le roi, il faut arriver à le soigner, mais tout ce qui est plus conventionnel, ça ne marche pas vraiment. Et donc, il va falloir se poser la question de l'opération. Et donc, il faut faire venir les chirurgiens, et voilà. Bref.
Ou une approche novatrice.
C'est ça, une approche novatrice.
Trouver un nouvel angle.
Trouver un nouvel angle. Comment on va faire pour que le roi y survive ? Parce que bien entendu, si on tue le roi, c'est clairement pas sûr qu'on y survive.
Ouais, c'est pas bon sur le CV, ça.
Et voilà. Va se rajouter là-dedans donc, le côté, pour le coup, moins historique, du personnage principal, dont j'ai encore oublié le nom, parce que je suis trop nul, je suis désolé.
Personnage principal, on va
le jeune voilà, Geoffroy. Le jeune Geoffroy.
Sganarelle.
Qui, en fait, est donc fils de boucher.
Donc, chirurgien de son état.
Et qui, lui, ben, est barbier et s'intéresse à la chirurgie, puisqu'à l'époque, les barbiers sont chirurgiens ou chirurgiens-barbiers, au choix, c'est pareil. Et donc, on va suivre les péripéties de ce jeune homme, issu de la basse société, qui se retrouve au bon endroit, au bon moment, ou au mauvais endroit, au mauvais moment, en fonction du truc, et qui, grâce à ça, va devenir l'apprenti du chirurgien du roi, et peut-être même devoir participer à l'opération du roi. Donc on mêle histoire et fiction, en place plein de petites anecdotes à droite à gauche. On va suivre Geoffroy à travers son périple dans la haute société. C'est frais, rafraîchissant. Il va se heurter aux dures réalités de la vie, apprendre notamment pourquoi son père a baptisé sa boucherie de son nom si étrange. Au boucher qui a... Hop, c'est au début.
On va le retrouver.
Qui a découpé sa promise. Chez l'imbécile heureux qui a vendu sa promise en morceaux. C'est sympa comme nom de boucherie. J'aime beaucoup. Ouais. Si un jour je deviens boucher, je reprendrai. Et bref,
ça pour ta boutique.
Voilà, chez l'imbécile heureux qui a vendu son bouquin en morceaux. Voilà.
En sous-titre sur la BDI, ça peut marcher.
Ouais, c'est ça. Et donc, une histoire très sympathique et une histoire humaine aussi, puisqu'on, enfin voilà, il va quand même être question de ce qu'on est prêt à abandonner pour avoir ce qu'on souhaite, et est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite ou non. Enfin bref, un sujet assez classique, mais plutôt bien abordé. Avec des dessins, ma foi, qui restent pas mal faits finalement, plutôt classiques dans l'approche aussi, mais bien travaillés.
Bien dans le ton.
Bien dans le ton. Moi, j'ai. Je suis pas au coup de cœur, mais je trouve que c'est quand même une bonne BD, très sympa à lire, légère, qui vaut le détour, qui vaut le coup d'œil. À vous, les studios.
Tio.
Je ne l'ai pas voulu, le Royal Fondement. Et pourtant, depuis le temps que je te parle de ton fondement, Pierrick,
c'est l'expression qu'il utilise régulièrement, le fondement.
Ah, j'ai pas appris le Royal Fondement. Et je le regrette parce que vraiment, c'est une bonne BD. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté ridicule, comme le film, ridicule.
Mm-hmm. Justement, les dialogues sont...
L'arrivée justement de Geoffrey à la cour où il se retrouve finalement dans une situation où il n'a pas toujours les codes de cette cour et cette façon de faire, et il a cette naïveté, cette fraîcheur face du coup aux nobles qui eux sont toujours dans le bon mot, le compromis, la traîtrise, et trouver toujours le petit truc pour piquer, pour être... lui il l'a pas en fait, parce que lui il s'en fout de tout ça, ça lui passe vraiment au-dessus de la tête. Et je trouve que voilà, les dialogues des fois entre lui et le... Moi je crois que l'apprentissage qu'il fait avec le chirurgien, c'est excellent. Les dialogues entre lui et le chirurgien et les assistants du chirurgien, parce que lui, du coup, Geoffrey parle aux assistants, alors que le chirurgien, lui, il ne leur parle pas. Il s'en fout. Mais vraiment une très bonne BD. Alors, je suis d'accord, je n'irai pas au coup de cœur, mais une très, très bonne surprise et un bouquin très drôle.
Pas grand-chose à ajouter. Effectivement, c'est très, très drôle. Moi, j'aime beaucoup le décalage qu'il y a entre les médecins... si on peut appeler ça des médecins, c'est des espèces de charlots, mais qui ont pignon sur rue parce que ce sont les médecins du roi.
De médecine quand même.
Ouais, voilà, c'est ça.
Chirurgie.
Franchement, mis à part mettre des sangsues, mettre des ventouses,
faire des lavements,
donner 3 herbes et demie. Enfin voilà, c'est des gros charlots.
Tu mets ton cul dans les myrtilles aussi.
Ouais, mais c'est rafraîchissant.
Myrtilles et le lavement au vinaigre, s'il te plaît.
Mmh. Oui, voilà, mais ça nettoie. Ça,
ça, ça, ça, ça, ça, ça,
ça, ça, ça garde son. Celui-là, il doit faire de la douleur quand même, un lavement au vinaigre.
Le vinaigre analysant,
est-ce qu'il y a une plaie ou pas?
Si t'as une plaie, à mon avis, tu dois la sentir. Tu dois pouvoir dire à quelle hauteur elle est dans le gros colon, tu vois.
Ouais. Ah, non, c'est vraiment, c'est. Voilà, je le trouve très drôle, ce personnage, parce qu'il est loin d'être idiot, mais on le fait passer pour un idiot ou il joue à l'idiot.
Il y a un peu de fond quand tu regardes, en fait. C'est limite comme ça que le recrute Louis XIV, en fait. C'est limite son bouffon pour le coup.
C'est ça.
Moi, j'ai bien aimé ce côté insertion de la grande histoire dans la petite histoire. La petite histoire dans la grande histoire, pardon.
Mais il est toujours question d'insertion.
Toujours à tout moment. Et parce que je trouve qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a ce personnage de fiction de Geoffroy qui apparaît comme l'apprenti, etc. Mais on a aussi un côté, pour le coup, histoire de la médecine. Comment est-ce que la médecine fonctionnait à l'époque, comment elle évoluait. Il y a cette histoire de complot au milieu qui nous parle aussi d'autres faits historiques qui passent à côté. Voilà, le dossier à la fin est plutôt bien écrit parce que c'est bourré de petits détails en plus où ils expliquent voilà le fait historique qu'on allait chercher pour pouvoir l'adapter. Moi, c'est un très très bon album. Si vous avez quelqu'un qui un jour doit se faire opérer de l'anus au frais de lui, franchement, ça le fera au moins rire un peu. Et ça lui dira que, heureusement, la science a bien progressé.
On peut voir ça comme ça.
C'est vrai. Après, je ne suis pas certain quand même que les gens communiquent vraiment sur « Au fait, je vais me faire opérer du cul ». C'est rare quand même. Moi, je t'avoue que voilà.
C'est vrai.
Je pense que ça reste quand même un petit peu honteux quand même.
Arrive à un certain âge, je pense que tu n'as plus de honte.
Oui, après, on... Arrive à un certain âge, de toute façon, tu as la fibroscopie, ta coloscopie.
Quand tu as un ami qui vient te voir en te disant « C'est bon, maintenant, je tutoie mon... » je sais plus comment on appelle ça, log.
Mon proctologue.
Mon proctologue.
Voilà, c'est que du coup...
Okay, c'est bon, il y est passé.
Il y est passé.
Quand tu commences à te faire tatouer des centimètres à partir de là...
C'est
le royal fondement.
Non, mais c'est vrai, ça crée du lien toujours.
Ça crée du lien.
Magnifiquement écrit par Philippe Charlot.
Aussi.
Joliment dessiné par Eric Upch, avec des belles couleurs d'Orlan Chambert, chez Grand Angle pour 16,90€.
Du coup, je réalise,
20.
Upch, c'est celui de Merlin de...
Oui, c'est lui.
Ouais.
Ah, ça y est. Ah, t'as toute la collecte et tout.
Je le préfère là-dessus, hein, pour le coup. Mais...
Oui, après, c'était assez égal, le Merlin. Mais enfin, bon. Là, il est très bien, en tout cas.
Ça veut dire on passe à la suite, en fait.
Non, mais je l'ai entendu, dans vos casques.
La jeunesse d'Arsène Lupin, Cagliostro, scénarisé par Jérôme Eau, d'après Maurice Leblanc, dessiné par Michael Minerbe, colorisé par Massimo Malosso, c'est chez Grand Angle, mais aussi au Rep Édition, j'ai cru voir, pour 16,90€.
Je ne suis pas au courant de répétition. Donc effectivement, nous allons parler d'Arsène Lupin, donc un jeune homme fougueux. Et oui, parce qu'on est dans la jeunesse d'Arsène Lupin, donc un jeune homme fougueux, impétueux, aventurier. Arsène Lupin est promis à une certaine Clarisse Détigue. Bon, il enquête sur son futur beau-père et Arsène déjoue une espèce de tentative de meurtre dans une barque qui était prête à couler. Il trouve une certaine Joséphine de Balsamo, ceux qui suivent un peu Arsène Lupin... voilà, vous savez quel personnage ça peut être, qui est en bien fâcheuse posture. Il lui offre donc la liberté, il apprend que ses ravisseurs et potentiellement ses assassins la prennent en réalité pour la comtesse de Cagliostro, une sorcière centenaire, charmeuse et sanguinaire. Ne prêtant guère attention à cette rumeur, le gentleman continue sa recherche d'un objet inestimable qui, en fin de compte, serait lié à la quête de Joséphine. L'objet de cette recherche sont des diamants d'une valeur absolument inestimable et qui étaient dissimulés aux yeux de tous dans la campagne normande. Course contre la montre, complot, faux semblant, Arsène va devoir redoubler d'ingéniosité, de filouterie pour lever le voile sur un mystère jalousement gardé depuis de nombreuses années. On est donc sur une BD enquête, voilà, avec un peu d'action, pas mal de rebondissements. Un peu d'ésotérisme dissimulé au démarrage. Voilà. Et donc, on surfe un peu sur la vague du Lupin de Netflix. Hein. On a plusieurs bouquins qui sont sortis là-dessus. Lupin contre Sherlock Holmes. Et on est un petit peu dans cette veine-là. Cette chasse au trésor inventive est menée tambour battant. C'est pas sans rappeler un petit peu justement du Sherlock Holmes. Le divertissement est assez réjouissant à suivre. Moi, j'ai passé un bon moment à la lecture. La fin est pas dénuée d'intérêt non plus. Donc, c'est pas l'album de l'année à mon sens, mais ça reste suffisamment qualitatif pour passer un bon moment. Donc voilà, c'est une adaptation. C'est pas l'exercice le plus aisé, mais c'est plutôt réussi. La partie graphique, par contre, moi, m'a pas franchement emballé. C'est assez statique, c'est pas d'une qualité parfaitement égale de bout en bout. Donc voilà, c'est pas ce qui m'a le plus plu. Donc en bref, c'est on peut trouver du plaisir à la lecture. Maintenant, voilà, la partie graphique et notamment la partie mise en couleur m'a clairement pas convaincu. Messieurs.
Guillaume.
Eh ben, écoute, alors je sais pas un personnage que je connais particulièrement bien, Arsène Lupin, mais je l'ai trouvé particulièrement naïf. J'aurais cru Arsène Lupin vachement plus intelligent et manipulateur.
C'est la jeunesse.
Ouais, enfin, il y a des moments, ça frise un peu la bêtise quand même.
Mais il est pas noir normalement.
Non, ça c'est Hassan Diop.
Pardon, excusez-moi, je mélange tout.
C'est pas une femme normalement.
Bon, à part ça, oui, c'est sympa, ça se lit bien, on passe un moment vaguement agréable. Enfin, moi, franchement, perso, ça m'a pas transcendé, j'ai trouvé ça un peu léger, tant au niveau du scénario qu'au niveau du graphisme. Je trouvais que ça s'enchaînait un peu trop facilement, un peu trop rapidement. Enfin, je sais pas, surtout venant d'un Arsène Lupin, même dans sa jeunesse, je m'attendais à quelque chose de, tu vois, un petit peu plus intrigant, qui te maltraite un peu plus les neurones, qui te prend un peu plus à revers, qui te surprend un peu, quoi. C'est à la limite de la couture au fil blanc pour moi, donc voilà, bof sans plus.
Théo, tu lances un regard, tu les trouves sévères ?
Alors, sur le dessin, je rejoins Tizak, parce qu'effectivement, je n'ai pas été follement emballé, mais ça fait le taf, hein, c'est quand même joli, on ne va pas non plus crier au scandale.
Il y a trop d'aplats.
Voilà, ouais, mais c'est
ça manque de dégradé.
C'est oui, mais la couleur, c'est la couleur, mais le dessin, je le trouve propre, c'est agréable, ça définit bien la situation. Après, moi, je trouve ça cool, le petit Arsène. Je l'ai pas trouvé si naïf que ça, parce qu'on sent bien quand même qu'il a déjà quand même un petit peu de malice, tu vois.
Ouais, bon, enfin, il se fait bananer deux trois fois quand même. Quoi.
Mais oui, mais parce qu'il a encore des sentiments. Après, justement, tu vois, moi, du coup, j'étais plutôt team Georges Descrières que l'ancienne version, tu vois, que je regardais petit chez mes grands-parents. Excusez-moi, faut
c'est
citer
le plus grand des.
Il y avait Roger Carrel aussi quand même dedans.
Mais c'est un gentleman.
Voilà. Et donc, du coup, c'est un gentleman qui couche avec tout le monde, mais qui ne s'attache jamais. Moi, c'est ça que j'avais en souvenir. Et donc, voilà. Mais voilà, ce petit Arsène Lupin, bonne BD. Bonne BD avec. Ouais, peut-être là, voilà, tu vois, je vois la voiture, c'est vrai que ça manque un peu de dynamisme, peut-être sur les déplacements.
Tout est très statique, les yeux, peut-être, les regards.
Bon, voilà. C'est une bonne BD. Franchement, là, je trouve quoi ? On a deux bons one-shots. Tu vois ?
Ouais, c'est bien, mais moi je trouve ça un peu léger quand même.
Alors, quoi. Moi je me demande si c'est pas une réédition portée par Grand Angle pour toucher du grand public, mais qui à la base est faite par un petit éditeur local, genre du coin. Et c'est l'impression que ça me donne quand je vois le dossier à la fin, qui est vraiment le du balade coup, touristique. Mais vraiment, c'est le truc pas super intéressant comme c'est raconté. Quoi.
C'est raconté par l'office de tourisme.
Ouais, ça, c'est le caillou où il est passé, où il fait référence à ce caillou à tel endroit.
Oui, mais sauf que tu sais que ce caillou, depuis qu'une certaine série Netflix est sorti, ils ont une recrudescence de gens
oui,
qui...
Oui, pas que du caillou, je parle là de tous les autres endroits qui te montrent... Bon. Donc j'ai l'impression... Moi, c'est ça que ça m'a donné comme impression. Maintenant, si on parle de bouquins d'office de tourisme que tu trouves, tu sais, les BD que tu trouves à la sortie des musées en général, qui sont pas fantastiques, si. Je trouve que c'est plutôt qualitatif par rapport à d'autres que j'ai vus. Le dessin, moi, j'ai trouvé un petit côté... j'ai oublié le nom du gars qui faisait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires sur certains visages. Sauf que quand il fait ses méchants, au début, la première planche, j'ai cru que il est dans la parodie, ils sont en train de regarder une pièce de théâtre, il y a un truc, t'as le méchant qui a ses yeux qui en font 3 tonnes. Je me suis dit, et je continue à dire, non, ils sont pas dans une pièce de théâtre, c'est vraiment comme ça que ça va être raconté.
Mais un méchant, c'est un méchant. Mais c'est lisible.
Ah, oui. Il manquait la voix, mais c'est la voix comme ça.
Okay, justement, c'est toi qui te l'as mise. Ouais,
au-delà de ça,
c'est bientôt, Lupin, tu vas te prendre une belette.
Au-delà de ça, l'histoire est intéressante. Elle menait tambour battant. Je trouve que sur le jeu de la mise en page, il y a quelque chose de plutôt réussi. Il y a pas mal de planches où il joue vraiment sur un unique dessin où les personnages se baladent de case en case. Un unique dessin qui est découpé. Et je trouve ça plutôt bien trouvé. Ça marche bien. Ce qui m'a le plus un peu gêné, c'est ce final un peu trop ouvert. Pour un one-shot, ça m'a un peu. Je me suis dit. OK, il va y avoir un tome 2 ou pas. Voilà.
En fait, je ne sais pas si c'est exactement un one-shot, c'est-à-dire que c'est baptisé histoire complète, mais tu sens qu'on veut rentrer quand même dans une espèce de série.
Ouais,
alors, tu ne sais pas si l'éditeur te dit « Bon, ben, je te marque histoire complète pour pas que tu attendes un tome 2 au cas où on ne le sorte pas. Mais quand même...
C'est juste parce que on
ça peut justifier le début d'une série.
Bah parce qu'on sait que Arsène Lupin va avoir une vie ensuite. On la connaît tous.
Si vous n'aurez pas appelé ça la jeunesse.
Oui, mais peut-être la moyenne. Il la raconte. Arsène Lupin à l'EHPAD. Non, ça c'est Martine comme ça. Martine à l'EHPAD. Martine prend une couche.
Donc la jeunesse d'Arsène Lupin. Cagliostro, scénarisé par Jérôme Eau d'après Maurice Leblanc, dessiné par Michael Minerbe, colorisé par Massimo Malosso chez Grand Angle pour 16,90€.
Oh, le bruitage à la bouche.
À la bouche, ouais. On a plus de budget désormais, c'est fini.
Nous allons parler de Daredevil Collection.
Et c'est 100%. La fin de l'émission.
Je vais essayer d'aller vite, rassurez-vous. C'est les tomes 2 et 3. On va aller sur la fin du run de Chip Zdarsky. Vous savez que comment ça fonctionne les comics. On prend un personnage qui existe depuis 40 000 ans et on demande à d'autres personnes de raconter une histoire. C'est dessiné principalement par Marco Cecchetto et Raphaël Delator, même s'ils ont parfois l'assistance de Manuel Garcia, et c'est colorisé par Matthew Wilson, qui porte les deux prénoms de deux personnages importants de cette bande dessinée. Matthew Murdock et Wilson.
Merci de nous le préciser.
Je ne sais pas si c'est un pseudo pour le coup, ou si c'est un hasard. Et
Wilson, c'est pas dans Doctor House.
Ouais, aussi.
Non, c'est le ballon, c'est le copain de.
Oui, ah, mais oui, c'est ça, il joue au tennis basket.
Au volet.
Pour résumer rapidement, donc Daredevil, le super-héros aveugle qui est aussi avocat le jour, avec sa nouvelle femme Elektra, il tente de gérer une troupe d'anciens criminels pour préparer le combat ultime contre la main, les gros méchants ninjas, et son armée qui est dirigée par le Punisher qui est devenu un super méchant.
Frank Castle.
Je ne vous fais pas l'histoire de tous les personnages. Sauf que les Avengers apprécient pas trop les méthodes super limites du couple, parce qu'ils sont devenus un peu super limites. Et ils viennent se mettre au milieu pour dire « Oh non, mais c'est pas bien, on va devoir t'arrêter. » Sauf qu'ils décident de dire « Mais j'en ai rien à foutre, ils continuent. » Le combat final va avoir lieu. Et ça va être d'autant plus difficile pour Daredevil, Matthew Murdock, parce qu'il a encore dû encaisser une perte difficile. Je ne spoilerai pas à ce niveau-là.
Mon Dieu, il a perdu son père.
ça arrive
il y a déjà, il a perdu le bas de son masque, déjà, parce que désormais, maintenant qu'il a vu qu'il s'est laissé pousser la barbe, ouais. C'est fini, masque
intégral. Ouais, mais ça grattait, sinon.
Ah bah oui, surtout, ça rentrait pas.
Au niveau des dessins, moi, j'aime beaucoup le style de Cecchetto. Je trouve que son dessin, il déchire. Les artistes bouche-trou, je dirais, qui sont Raphaël Delator et Manuel Garcia, ils assurent aussi. Il y a un ton sombre qui reste réaliste.
Ça les comme... artistes bouche-trou.
Ouais, bah en
c'est
gros.
C'est pas gentil, ça.
Bah oui, mais c'est un peu le principe des
gros écrits. Et surtout après le Royal Fondement.
Oui. Non.
C'est pour rester dans la thématique. C'est pour rester dans la thématique.
Moi, je t'aurais dit, quand tu vois la qualité du dessin dans Daredevil et la qualité du dessin sur le Cagliostro qu'on vient de lire, si tu veux.
Oui.
Excuse-moi, tes bouche-trous, ils sont quand même.
Ah oui, mais j'ai pas dit. Non, mais j'ai dit. Non. Quand je dis bouche-trous, c'est que c'est. Ils ont choisi un artiste qui est l'artiste qui va porter le titre, et puis de temps en temps, il dessine très très bien, ça lui prend beaucoup de temps.
C'est un peu le bandeau remplaçant du Real Madrid, si tu veux, quand même.
Ils en prennent des biens, c'est ce que j'ai dit. Donc, ils gardent une ampleur super héroïque dans le trait, hein, qui est plutôt bienvenue, parce qu'on a des enjeux fantastiques, entre guillemets, dans le récit. Chip Zdarsky, au niveau du scénario, il arrive à traiter des sujets hyper classiques de Daredevil, mais il trouve un angle original. C'est pas super évident. Moi, je suis resté curieux tout du long de la façon dont l'histoire allait évoluer. Ça a plutôt bien marché. Revenons quand même maintenant vraiment sur le vrai sujet. C'est la fin de ce run de Chip Zdarsky. Ça laisse un beau bordel aux successeurs qui vont devoir gérer beaucoup de choses parce que ça évite de laisser un bon statu quo comme ils nous le font d'habitude, de se dire « Ah, on va faire comme si rien ne s'était passé ». Ça aurait pu être un run remarquable, même s'il ne manque pas de moments mémorables. Mais les choix éditoriaux de Marvel, ça te plombe un peu toute la série. Ça mélange
surprise.
À des crossovers qui n'ont pas de grands intérêts. Pour la trame générale, ça demande de trop s'éloigner de la série maîtresse pour aller lire les autres séries à gauche, à droite, et de nous faire dépenser plein de sous pour des trucs qui ne nous intéressent pas. Mais j'oublierai quand même pas ce run parce que je regrette cette douce époque où Joe Quesada protégeait Daredevil et où il y avait plein de gros crossovers et Daredevil il n'était pas dans les crossovers, il menait sa vie tranquille, c'était une grande époque. Voilà, peut-être que la réédition de luxe, parce que bien sûr chez Panini ils vont nous refaire ce run qui vient de sortir en 100%, une réédition de luxe derrière, permettra d'avoir l'essentiel du run tout en évitant les bouche-trous de Devil's Reign, donc ce crossover que je n'ai pas acheté parce que c'était bourré de bouche-trous. Thio, tu es le seul à avoir commencé à essayer.
Alors donc j'ai eu assez récemment les Daredevil et je me suis lancé que très récemment dessus, c'est-à-dire hier. Et en fait, je n'ai pas réussi à finir le tome 2 parce que c'est du fight et que ça m'a gonflé en fait et que j'avais pas envie de fight. Mais après, ça n'enlève rien aux qualités graphiques du Daredevil. Je les ai feuilletés les deux. C'est beau. C'est quand même bien dessiné. Effectivement, les couleurs sont assez, assez sombres. Ça crée une ambiance quand même qui est très...
dark.
Ouais.
Sombre.
Sombre, dark. Vraiment, tu sens qu'on est, en fait, on n'est pas dans la joie de vivre. Quoi. C'est pas happy hour. Hein.
En même temps, c'est Dédé. Hein.
En même temps, il a une période happy, Dédé.
Alors ouais. Oui, à chaque fois qu'il rencontre une meuf, pendant 4-5 pages, tout va bien. Il nique, il dort et il travaille et la vie est belle. Puis on nique sa meuf ou on la fume.
Then they fuck, then they fight.
Ensuite ça fight. Ça ne dure que 3-4 pages sur les Daredevil.
Ouais, t'as un gros scénar.
Ouais, c'est vrai que finalement, vu comme ça, c'est peut-être pas si.
Là, il trouve une certaine stabilité de couple là, avec
elle. C'est vrai. Mais en fait, il a choisi une meuf qui peut se défendre. Donc du coup, on ne peut pas la tuer facilement.
Then they fuck, then they fight together.
Et puis surtout, elle est suffisamment bankable pour qu'on puisse pas se permettre de la buter comme ça,
c'est
chez
ça.
Marvel.
Bon, donc du coup, les Daredevil, c'est joli. Enfin, bien. Maintenant, je vais prendre le temps, là, quand je serai un peu plus dans le mood, d'essayer de finir l'arc donc de Zarsky. Mais j'étais pas emballé au début. Il y a eu des moments un peu mieux. Mais là, je vous avoue que j'ai du mal à y retourner encore une fois. Donc, vivement le nouvel arc.
Ouais, c'est ça.
Bah, ça va peut-être me remotiver pour Daredevil.
Bah, s'il n'y a pas de gros crossover de merde au milieu. Qui
oui, mais alors par contre, est-ce qu'il y aura un Barbie qui passe? Parce que ça, c'est moi, je crois, important.
Ouais.
Parce que je trouve que bon, le masque qui pendouille sur les côtés, parce que t'as tellement de barbe.
J'aime bien ce nouveau look.
Dans un tribunal, ça passe pas.
Non, mais on dirait un mec des forces spéciales, quoi.
Regarde, le dernier qui a fait ça, on l'a nommé ministre de la Justice.
Ah, ça craint.
Mais il n'était pas aveugle. Enfin,
alors,
un
si,
peu.
Parce que la justice est aveugle.
Aveugle, c'est vrai.
Oh, mais tu. Oh, j'avais jamais pensé. Ah, oh,
oui,
mon Dieu, mais Daredevil, c'est ça, en
mais
fait.
Oui, mais oui, c'est un truc de dingue.
Chip Zdarsky, Marco Cecchetto, Raphaël Delator, Manuel Garcia, Matthew Wilson, Eric Arciniega chez Panini.
C'est le café philo avec Tizak.
Pour 16 ou 18 euros en fonction du.
Tous les mercredis.
Heureusement qu'on n'a pas analysé le Royal Flambant.
Ouais. Un jeu de société de Cole Smith, illustré par Catalyst Labs, sorti chez Synapse Games.
Attends.
Guillaume, voilà. De quoi ça nous parle que Tanuki?
Ouais, lisez bien ce qui est écrit sous Tanuki.
Alors, je vais donc faire la lecture. Un jeu de Kuba entre samouraï, geisha, ninja et autres mignons personnages poilus. C'est sûr que Samouraï Ninja, on pense à mignon de suite. Donc Tanuki, c'est un jeu de cartes où on va se faire joyeusement des amis. L'idée, c'est simplement de recollecter un maximum de bambous représentés par des pions. Ah, j'ai oublié de virer ce truc-là dégueulasse.
Des petits jetons.
Des petits jetons que vous voyez juste là. Hop.
Enfin, ouais, c'est des trucs en carton.
C'est des trucs en carton, pardon. Vous avez des petites planches punchable, là, comme on dit. Des règles qui tiennent en gros sur cette ligne, même si Thierry a mis pas loin d'une demi-heure à les lire.
Mais j'avais pas mes lunettes,
voilà. Ce qui parlait beaucoup.
Des cartes personnages, des cartes actions, et le principe est très simple. À chaque tour, vous jouez une carte. Soit vous grossissez les personnages dans votre jardin pour engranger plus de bambous tous les tours, soit vous allez les piquer chez les autres, vous en détruisez.
C'est ça qui est bon.
Bref, vous vous faites plein d'amis. C'est un jeu très simple dans la mécanique. La blague, c'est de dire que les règles tiennent au dos de la boîte. Pardon, dans le bon sens, c'est mieux. Et effectivement, les règles tiennent au dos de la boîte.
Ouais.
Donc, on a testé ça. C'est des parties assez rapides. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Allez, potentiellement 25 minutes si vous prenez votre temps pour jouer. Et,
oui,
que,
les cartes de fin de tour arrivent très loin. Chose qui nous est arrivée, nous. Hein. On est allé au bout du tas. Quoi.
Ouais, c'est marrant. Et donc, voilà, une mécanique sympathique. Quoi. On peut prendre ça en main avec les enfants à partir de 7 ans. J'ai testé ça avec mes ados tout à l'heure. On s'est bien marré. J'ai testé ça avec les autres ados tout à l'heure. On s'est bien marré aussi.
On n'est pas tes ados.
On est les autres.
Et donc, voilà, un petit jeu mignon, sympathique, avec un design tout choupi pour se faire plein de potes. Voilà.
Un jeu pour des amis, Tanuki, Synapse Game. Merci de nous avoir écoutés, c'était un grand plaisir. Si vous voulez savoir ce qu'on fait, sachez que notre cher Guillaume est à la
Bédéry à Aix, une boutique de BD, mais qui est aussi une boutique de jeux de société, de jeux de rôle. Qu'est-ce que vous allez vendre bientôt de comme nouveau truc?
Il faut bien faire des sushis.
Vu que la cave à bière a fermé dans la rue, j'envisage.
Ah,
fermé?
Oui, parce qu'en fait, le magasin n'était plus rentable. Donc, ils sont restés sur les gros magasins à Bouc et à Aubagne.
D'accord.
Non, je ne m'inquiète pas pour eux, ils vont continuer.
Mais ailleurs.
Non, mais ailleurs, le magasin.
Et du coup, vous allez boire quoi, vous?
Eh bien, toujours de la bière.
Non, parce que t'as toujours pas de robinet d'eau.
Non, il s'en rend pas. Attends, le plombier, il n'arrive pas à le réparer. Sérieux, c'est pénible.
Vous avez Thio qui est sur Instagram, sur la galerie de Mathieu, qui nous a fait un très, très joli tableau récemment. Tizak est dans sa classe à traumatiser des élèves.
Non, pas
Moi, vous pouvez me retrouver sur La Voix des Bulles ou Wanaipier sur à peu près tous les réseaux sociaux.
Ou à la fac où ils traumatisent des étudiants.
Oui,
je traumatise. Les enseignants aussi d'ailleurs.
Oui, je traumatise tout le monde. C'est mon rôle, c'est mon but, c'est mon travail dans la vie. Et sur ce, je crois qu'on se retrouve tout de suite pour ceux qui nous écoutent en live. Et puis.
Bonsoir les bottes.
Dans une semaine pour ceux qui nous écoutent pas en live. Et peut-être tout de suite si vous enchaînez, si vous écoutez le replay sur Twitch, parce qu'il y a un replay aussi. Comme ça, vous avez toutes les conneries qu'on dit avant d'enregistrer. Et puis je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Et c'est là que je dis ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bye.
Bye, bye.
À bientôt.